7h28, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, c'est Boulevard Against le matin. On a le privilège et le plaisir de recevoir l'excellent vulgarisateur d'actualité, Farnel Morisset, avec nous. Farnel, t'as des petits yeux, grosse soirée au fait qu'hier.
Ah, ben j'avais la très bonne idée hier d'aller juste au premier show puis rentrer tôt, mais ouais. J'ai la grande chance d'avoir une sœur qui a des meilleures idées que moi dans la vie et qui a décidé, non, viens-t'en, on va soirée country, puis je suis resté jusqu'à la fin. J'ai adoré, ça a vraiment été le fun.
Ouais. C'était plaisant.
Ça paraît.
Ouais, Matt Lang comme remplaçant. Il a fait.
Pour un show qu'il a préparé en moins de 24 heures, qu'il a fait venir son équipe.
Il était au Costco en train de remplir ses sacs quand il était appelé.
C'est ça. Je veux dire, c'est selon moi jusqu'à date, là. Puis je suis pas allé à tous les spectacles. Je prétends pas avoir la science absolue là-dessus. Mais selon moi, c'est le meilleur show de la fête jusqu'à date.
Ah, c'est donc bien le fun que tu nous dises ça. Imagine pareil le changement dans ta vie. T'es en train de faire des commissions au Costco. Fait que tu te dis, peut-être, ouais, demain soir, il y a Lonsbourg, hein. Moi, invité la famille, on fait un barbecue. Hey,
ouais.
Puis là, le fait que t'appelles, il dit, hey, oublie ton barbecue, tu t'en vas à la scène, place Georges à 5, mais pas à 6 heures, là, à 21h15.
Yes.
T'es le main event, t'es la tête d'affiche principale. Exceptionnel ce qu'il a fait, Matt Lang, un gars de grand talent. Farnel, avant de parler terroriste, je veux qu'on se mette dans le bain avec un petit montage Historia sur l'histoire du FLQ. On écoute ça et on revient.
Tout était en plan, et le 5 octobre, on est passé à l'action. On pensait qu'enlever un Britannique aurait le plus gros impact. Qu'on verrait le pouvoir et la domination sous son vrai visage.
L'attaché commercial du Haut-Commissariat de la Grande-Bretagne à Montréal, James
Richard. On savait que les gens parlaient français, qui étaient des Québécois. On se doutait que c'était ça, mais on n'avait pas de preuves concrètes que c'était le FLQ.
Voici les conditions que les autorités en place devront remplir pour conserver la vie aux représentants du vieux système britannique raciste et colonialiste.
Mais dès le début, on soupçonnait Jean Clanteau.
C'est quelqu'un qu'on connaissait comme un membre du FLQ qui avait ce potentiel-là.
À ce moment-là, la situation est complètement dans une impasse.
Et puis si on voulait que ça débouche à quelque chose de concret...
On va dans le champ! On va débattre!
On n'avait pas le choix.
Est-ce qu'on est de retour à l'époque FLQIS, Farnel, avec ce qui est arrivé à Québec? Énormément d'armes dans les mains de quatre hommes qui ont justement passé militaire et qui voulaient s'emparer d'une partie de la ville de Québec.
Je pense que la première chose à réaliser, puis il faut vraiment se le rappeler, c'est qu'on n'a pas encore, on n'a qu'une fraction de l'information, mais... Au meilleur, en tout cas, meilleur de ce que j'ai vu, il n'y a pas de lien au FLQ. C'est pas un groupe qui se revendique de cette trempe-là. On parle de quatre hommes qui ont été arrêtés, que peut-être il y avait d'autres personnes qui étaient impliquées par Instagram, mais je veux dire, un like Instagram, est-ce que c'est un appui au terrorisme? Je pense pas. Plus probablement, c'est une espèce de... Encore une fois, réaction à froid, là. On sait pas exactement tout ce qui se passe encore, mais ça ressemble à une espèce de groupe qui veut cette espèce de se faire un... En anglais, on dit un compound, une espèce de petit environnement propre à eux où ils vont pas se faire déranger par la police, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Tu sais, c'est moi quand je regarde ça, ce que je vois, c'est un peu une extension de des théories un peu de citoyens souverains, des gens qui disent ah moi l'État ça s'applique pas à moi, mais poussé à l'extrême. Quand on se ramasse à avoir ça. Moi, je pense au sociologue, l'économiste Max Weber qui a un peu défini l'État en 1921, qui était un peu le premier à arriver à une définition complète de l'État comme étant une organisation politique qui revendique un monopole sur l'usage de la force sur un territoire donné. Tu sais, je simplifie.
OK, l'usage de la force, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Ben, dans le sens que c'est comment on sait qu'on a un État, c'est qu'il existe un seul groupe, qui est le gouvernement, qui a le droit d'utiliser la force contre nous. Alors, c'est les seuls qui sont capables de faire la loi, essentiellement.
Puis là, ça passe de loi de « je t'emprisonne » à « je te donne un ticket pour un
feu ». Oui, tu sais, je veux dire, n'importe quoi, là. Parfait. N'importe quelle loi, allant des plus sévères aux plus simples, passe par, justement, un monopole sur la force, qu'il y a juste l'État qui est capable d'envoyer des policiers pour appliquer la loi, puis si nous, on essaie d'envoyer nos propres policiers, ben on va avoir un problème. Alors, ça ressemble un peu à un groupe qui essayait de se séparer de l'État De ce qu'on en comprend pour l'instant, encore une fois, il y a très peu d'informations qui sont sorties. Ma réaction initiale, c'est ça. C'est le genre de groupe qu'on voit un peu plus souvent dans le sud des États-Unis où il y a une espèce de philosophie très individualiste où ça
se ressort
souvent.
J'allais dire justement, quand on entend ce type de nouvelles-là, normalement, ça va être dans un État comme le Texas,
exact,
par exemple.
Oui.
C'est pas au Québec.
Puis ça va pas être proche des grandes villes. Ça va être dans un ranch à quelque part très, très loin où, généralement, ils font juste commencer à se faire déranger quand ils commencent à faire des choses illégales.
Jacinthe est allé tirer du gun. C'est ce
On apprenait que ces quatre individus-là tenaient un compte Instagram qu'ils utilisaient pour montrer un peu leur cheminement, puis même peut-être faire du recrutement. Il y a quatre individus qui ont été arrêtés. Est-ce que ça pourrait cacher plus de personnes derrière, justement, en raison de ce compte Instagram-là?
Ça, encore une fois, c'est dur de le savoir parce que c'est tellement nouveau, mais je veux dire, moi tout seul, j'ai 30 000 abonnés Instagram. On s'entend que ça ne veut pas dire qu'il y a 30 000 personnes qui vont faire ce que je leur dis, même si je leur dis de faire des folies. C'est pas comme ça que ça fonctionne, la réalité moderne des interactions sur les médias sociaux. Il y a eu des photos qui sont sorties du compte Instagram, donc c'était clairement pas une opération clandestine hyper bien ficelée, là. Je pense que si on a fait des arrestations contre 4 personnes, c'est qu'on a des preuves concrètes contre 4 personnes. Est-ce qu'il y en a d'autres? Peut-être, mais je n'irai pas à dire que ça ressemble à une espèce de culte de recrutement par les médias sociaux. Je pense que ça serait poussé un peu loin, dire ça.
Je veux vraiment pas te coincer, Farnell, parce que tu l'as dit, les informations sont très fragmentaires. On connaît pas tout de ce dossier-là, mais ce qu'on sait, c'est que les individus, les faits reprochés sont entre 2021 et 2024. Et là, on en parle dans les médias parce qu'ils viennent d'avoir, des chefs d'accusation qui ont été déposés contre eux hier. Qu'est-ce qui fait que ça prend autant de temps entre des activités en 2021 et 2024? On a saisi tout l'arsenal, là. On voit, là, c'est très impressionnant, la liste des armes, des munitions qui ont été saisies en 2024. Donc, on saisit tout ça en 2024. Il y a des accusations qui sont portées un an plus tard, et là, on parle de terrorisme, ça fait bien peur au monde, là, mais on était loin. Depuis au moins un an, finalement, ces gens-là, le matériel a été saisi et les autorités policières ont un œil sur ces gens-là depuis au moins un an maintenant. Ça dit quoi, là? Pourquoi ça a pris autant de temps? Puis finalement, la menace, elle est déjà éliminée depuis plus d'un an. Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre?
Encore une fois, l'information sort, mais on parle de terrorisme, puis je pense que c'est une partie de la réponse. Encore une fois, purement spéculatif, là, parce que j'ai pas les rapports policiers devant moi, évidemment, mais les accusations de terrorisme sont quand même assez sérieuses. Je suis allé voir, juste pour être certain, j'ai ouvert mon code criminel, juste pour voir c'est quoi exactement. Là. Si on charge quelqu'un de terroriste, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu que la GRC avait dit que le public n'était jamais en danger, mais je suis pas entièrement certain parce que pour une accusation de terrorisme...
C'est un élément principal.
C'est un des éléments principaux, c'est ça. T'sais, essentiellement, il faut qu'à des fins idéologiques, politiques ou religieuses, il y ait soit des blessures graves ou mort d'homme, ou qu'il y ait un danger sérieux de mort d'homme, ou qu'il y ait un danger sérieux pour la sécurité d'une partie du public. Soit ça, ou qu'il y ait une espèce de paralysie généralisée et très importante de l'infrastructure. Puis ça, c'est clair qu'on en aurait entendu parler avant. Alors, faire une enquête pour terrorisme, ça prend beaucoup de temps. C'est pas suffisant de juste saisir des armes, saisir des explosifs. Il faut aussi se sentir capable de prouver qu'il y a un élément idéologique, politique ou religieux. Puis ça, ça prend beaucoup de temps d'enquête.
Il faut creuser des communications, des conversations.
Ça prend longtemps pour passer en entrevue plein de gens qui sont, on s'entend, probablement pas très enclins à parler à la police à la base, pour pouvoir aller prouver ou se sentir capable de prouver cet élément-là de l'accusation de terrorisme. Ça prend du temps. Alors, j'ai l'impression que si on entend parler juste maintenant, c'est que finalement, après enquête, on se sent prêt à déposer ces accusations-là. On va voir encore dans les prochains jours. C'est sûr que c'est très choquant parler de terrorisme, parler de quelque chose qui était si proche de chez nous et se faire dire après « Oh non, inquiétez-vous pas, il n'y a jamais eu de danger au public. » J'ai hâte de voir quand on va voir plus de la preuve qui va sortir.
Farnell, je regarde également Colombie-Britannique. Deux suspects recherchés après l'explosion au bureau d'une ministre là-bas. Donc, on diffuse les photos des deux hommes. Est-ce qu'on est devant un courant de violence au Canada? Est-ce qu'on doit craindre ceci? Les gens par texto ne craignent pas pour leur sécurité à Québec, mais est-ce qu'il va y avoir de plus en plus de ce type de milice-là qui va s'organiser au Canada?
Là-dessus, je pense que c'est peut-être un peu une question de timing. Je veux dire, comme Jacinthe disait, là, les gens ont été appréhendés il y a plus qu'un an à Québec. Alors, je pense pas qu'il y a de lien entre quatre individus à Québec qui semblaient avoir un groupe Facebook puis des idées un peu, disons, anarcho-ridicule,
ouais.
Et deux personnes en Colombie-Britannique qui ont fait sauter un explosif. Je crois pas qu'il y a de lien, puis on aimerait tous vivre dans une société où il y a personne qui utilise la violence.
Où mais, tout le monde est beau et fin, puis on est dans un monde de calinos.
C'est ça. T'sais, on a un énorme pays, 30 millions de personnes, ça va arriver, et puis je suis sûr que depuis 2024 à maintenant, il y en a eu d'autres, là, des gestes de violence. Et il va en avoir d'autres encore. C'est malheureux, mais je pense pas que c'est quelque chose qui démontre la levée d'un courant particulier. C'est une question de timing que les deux nouvelles sortent en même temps, je pense.
On ne connaît pas toutes les intentions de ce groupe-là, de ces quatre individus. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? On ne connaît pas dans le détail. Ce qui est public, c'est qu'ils voulaient créer une zone de non-droit. Donc, il n'est pas question d'attaquer personne selon ce qu'on a lu. Il n'est pas question d'être violent à l'endroit de personne d'après ce qu'on a lu non plus. Mais on voulait créer une zone de non-droit. C'est quoi une zone de non-droit?
Bien, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt sur la définition d'un État. T'sais, une zone de non-droit, c'est quelque part où j'imagine, ils veulent que le gouvernement, les lois ne s'appliquent pas. Alors, ça veut dire que s'ils veulent, par exemple, vendre de la drogue ou s'engager dans des activités qui seraient normalement illégales, ils se décident, ben, chez nous, on peut le faire. Alors, évidemment, la police va dire, ben non, tu peux pas faire ça. Et puis là, la seule façon que tu peux revendiquer une zone de non-droit, c'est par la violence.
Ouais.
Parce qu'il faut que tu démontres que tu es prêt à tirer sur les policiers s'ils viennent chez vous. Puis clairement, avec l'équipement qu'il y avait, je pense que ça rentrait dans leurs intentions.
Ouais, ouais.
Est-ce qu'une zone de non-droit peut être justement installée dans une zone sans population, exemple dans un champ perdu ou en quelque part comme ça?
Ben, à toute fin pratique, là, n'importe qui décide de marcher 4-5 heures dans la forêt où il n'y a personne autour de lui, s'il décide de se faire une zone de non-droit à lui tout seul, il y en a une. Je veux dire, on a un très, très vaste pays qui est très peu peuplé.
Ma maison et mon terrain peut être une zone de non-droit?
Ben, je veux dire, tant que tu déranges personne, puis tant qu'il n'y a personne qui appelle la police, puis tant qu'il n'y a personne qui vient appliquer le droit, c'est mais c'est plutôt une question de qu'est-ce qui va arriver quand justement ils vont commencer à déranger du monde.
Ouais.
Ben, c'est qu'évidemment, c'est là que les forces de l'ordre vont intervenir. Alors, une zone de non-droit effective, c'est entièrement possible si tu es assez loin de tout le monde puis tu déranges personne. Mais s'il allait être proche de Québec, s'il allait être armé aux dents comme ça, c'est probablement qu'il anticipait que ce qu'il faisait, ça allait déranger quelqu'un quelque part.
Il est le meilleur vulgarisateur de l'actualité. En 12 minutes, il vient nous résumer ses accusations de terrorisme à Québec et rassurer la population de Québec. Fernel Morisset, merci infiniment. Merci de t'être déplacé très tôt ce matin après un excellent spectacle au Festival d'été de Québec. Pensez au courant de l'actualité pour continuer à réagir. Dès la semaine prochaine, je pense, à chaque mardi.
Oui, les mardis.
16 à 17, tu vas être avec la gang du retour, c'est-à-dire qu'Audrey Pinchot et Maxime Larouche.
Exact, j'ai très hâte et puis ça m'empêchera pas d'aller au reste du festival puis aller à d'autres shows pareils.
Puis venir nous voir le matin aussi.
Avec plaisir, ça c'est toujours toujours un bon départ à ma journée.
Magique, continue ton excellent travail, Fernel Morisset, on t'adore. On passe en pause publicitaire et par la suite, on va jaser de Donald Trump. Pourquoi il s'attaque au cuivre? Est-ce qu'il va vraiment s'y attaquer à partir du 1er août? Et c'est une date fictive comme il l'a fait plusieurs fois. C'est ce qu'on va discuter. Après cette courte pause, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1 à Boulevard Against le matin.
Boulevard Against le matin.
Merci.
T'aimes l'actualité, t'aimes le rock. T'as jamais téléchargé l'application Boulevard sur ton téléphone? T'es qui, toi? Gratuit sur